Alors Mazzini a longtemps été considéré, et il est encore, comme un révolutionnaire conspirateur, l'homme au poignard, et ou comme un penseur utopiste. C'est quelquefois les deux, ou quelquefois on met l'accent ou sur le conspirateur, ou sur le penseur utopiste. C'est particulièrement vrai en France. Alors il ne s'agit pas de traiter ici et maintenant le rapport de la France et de Mazzini, c'est un autre sujet, un sujet intéressant qui permet d'aborder le continent Mazzini, mais je vais simplement retenir pour notre relation cette formule de Daniel Stern, qui est, sans doute beaucoup d'entre vous le savent, le nom de plume de la comtesse d'Agou, qui était liée à Mazzini, il y aura une correspondance, assez longtemps, avec d'ailleurs le Mazzini, presque jusqu'à la mort de Mazzini. Et voilà ce qu'elle écrivait il y a un peu plus de 140 ans, et ça reste globalement, j'ai envie de dire, malheureusement vrai. Alors elle parle pour la France. Je cite, elle déplore que, ouvrez les guillemets, cette grande figure de notre temps n'apparaisse chez nous, donc en France, à la plupart des esprits, que comme un conspirateur toujours armé du poignard. On ne sait de lui que sa légende révolutionnaire, et l'on ignore généralement la pensée qui dirigeait son action. Donc évidemment, ne mettant pas l'accent sur le penseur, mais sur l'homme d'action, le révolutionnaire, et évidemment, ou c'est le conspirateur, ou alors on le considère comme un penseur utopiste dont les idées ne se sont jamais réalisées. Conspirateur au poignard, utopiste, perdant de l'histoire, sont les deux préjugés, j'emploie volontairement ce terme, qui reviennent le plus souvent sous la plume de ceux qui écrivent sur lui ou qui évoquent son action. Si l'on y ajoute que l'iconographie le présente dans le meilleur des cas comme un homme hiératique et dans le pire comme un monstre froid aux allures spectrales, le tableau n'est guère flatteur. C'était un vrai problème de trouver pour la couverture, hein, pour ne pas faire fuir le lecteur. Voilà, à moins de le passer dans une collection, Les fantômes de la nuit. Où... Il a, avec cette image d'un homme désincarné, porté d'ailleurs aussi par une partie des Mazziniens, qui en font un homme désincarné. Alors moi, j'ai voulu aussi montrer toute la dimension affective qu'il y avait, le côté séducteur de l'homme. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Pourquoi ces préjugés? Où et par qui ont-ils été forgés? Quelles conséquences ont-ils sur la vision déformante de l'engageant de Mazzini? L'entreprise de cette brève relation n'est pas de sauver le soldat de Mazzini, mais de restituer une pensée féconde avec ses limites, sa grandeur, son actualité, et bien sûr aussi ses limites. Alors, conspirateur au poignard. Évidemment, ça a été très important en France du fait de l'attentat de Felice Orsini, dont on a écrit qu'il avait été télécommandé par dont Mazzini aurait été le cerveau. Alors là, c'est très difficile de trouver une preuve. On a plutôt tendance à ne plus le voir aujourd'hui pour plusieurs raisons. D'une part, il était déjà fâché. Vous savez, Mazzini, c'est toute une histoire de rapprochement et de rupture. Il y avait une rupture déjà avec Orsini à cette époque. Deuxièmement, il est à Londres. Et à Londres, l'essentiel de son activité dans son premier séjour londonien qui dure 10 ans de 1837 à 1848 est essentiellement tourné vers la réflexion. Et donc, préparer qui des attentats terroristes, c'est possible. Celui d'Orsini, c'est peu probable. Néanmoins, cette étiquette de conspirateur continue de lui être accolée dans le dessein de lui nuire ou aujourd'hui de manière acritique par des gens oublieux que cette réduction de Mazzini à la figure d'un conspirateur, souvent sans pitié, qui sacrifie les autres, en plus. C'est pas un kamikaze, c'est lui qui va sacrifier surtout des jeunes. A été forgé dans les milieux conservateurs. Le premier à l'avoir forgé, c'est Metternich, qui d'ailleurs, d'une manière, avec une grande lucidité, dès 1832, dit Mazzini, voilà une puissance. C'est le mot qu'il emploie en français. Une puissance. C'est-à-dire une puissance, en entendant, contre la logique de la Sainte Alliance. Donc forgé dans les milieux, on va dire, conservateurs, repris par les milieux modérés, et puis finalement, passé dans l'historiographie. Et je dirais presque, ça devient presque un lieu commun. Je vais prendre deux exemples. En 1984, Bettino Craxi avait refusé, en partie, je parle sous votre contrôle, son refus de livrer aux autorités des États-Unis le dirigeant palestinien Abu Abbas. Et, bah, évidemment, il y avait une question diplomatique, hein, bon, mais il l'avait mis en avant. Vous savez, c'était celui qui avait détourné le paquebot Achille Lauro. Et il avait dit, bah, après tout, Abu Abbas, c'est un peu le Mazzini des Palestiniens. Regardez l'image, tu en parleras, Laurent, dans le dernier film qui a eu un succès en Italie, Noi Credevamo. Alors, on est content parce que là, des quatre figures tutélaires, on voit un moment la silhouette au loin de Mazzini. Cavour, Victor Emmanuel II, sont fuori gioco. C'est Mazzini, la personnage central. Mais enfin, c'est toujours quand même le conspirateur, un peu opiuman. Bon, il fait un peu peur quand même. Hein, voilà. Et c'est toujours un petit peu cette figure. Le film est très discutable, mais on va en discuter. Est-ce que Mazzini est resté ou non partisan de l'action terroriste? C'est difficile de le dire. Moi, je penche plutôt pour dire non. Parce qu'au fur et à mesure qu'il évolue, il prône autre chose. Mais on va surtout s'intéresser au second préjugé. Là, en revanche, on peut franchement discuter. Est-il un penseur utopiste? Alors, il faut savoir que ça, c'est très largement répandu, cette présentation. Penseur utopiste, alors, c'est pas forcément négatif, comme un conspirateur au poignard. Mais l'utopie, comme tout le monde le sait, c'est une île qui n'existe pas. Ça veut dire penseur utopiste, un peu comme Marx disait, il y a le socialisme utopique, puis après, il y a le vrai, le socialisme scientifique. Hein, un peu cette coupure. Eh bien, là, ça serait un peu la même chose. Voilà un penseur qui imagine des choses, mais qui ne se réalise jamais. Ce serait un penseur embourbé dans le mysticisme. Tout sauf un mystique, si on prend vraiment les choses. Un esprit religieux. Alors, évidemment, ça, c'est diffusé très largement. Ici, il est le Moïse de l'esprit du mal. Oui, le Moïse de l'esprit du mal pour les jaunes réactionnaires. Et bien, quand il se fâche avec les socialistes français, Louis Blanc, Georges Sand, etc., après le coup d'État Louis-Napoléon Bonaparte, ils reprennent ce vocabulaire. Alors, il n'est plus le Moïse de l'esprit du mal, mais il est le Mahomet cosmopolite. Et donc, vous voyez, il y a toujours cette dimension. C'est d'abord quelqu'un embourbé dans la religion. Et voilà. Et cette vision, donc, il est un peu, parce que vous cette expression, je ne veux pas être, pour la prendre vraiment au sens premier, has been dépassé. Alors, est-il un utopiste et un perdant de l'histoire? Comment s'est forgée cette image? Elle a d'abord été forgée par les partisans de la dynastie de Savoie. Puis repris par les élites politiques de l'Italie libérale et trop rarement remis en cause par l'historiographie. Une historiographie qui présente, pour aller rapidement, le Risorgimento en trois temps, le temps des expériences romantiques, dont Mazzini serait le phare, qui trouverait son couronnement et en même temps son chant du cygne dans la République romaine de 1849, puis succéderait le temps de la résignation politique, la décennie de préparation, puis, par nécessité ou par défaut, le projet unitaire piémontais, qui serait pensé et voulu par Cavour et Victor Emmanuel II, qui s'imposerait comme la seule solution. Mazzini appartiendrait au premier âge, dont il est sans doute le plus célèbre et le plus glorieux protagoniste, mais en restant inflexible sur ses conceptions, eh bien, il n'aurait pas compris le sens de l'histoire et serait donc un penseur utopiste. Regardez, je ne rentre pas, sa statue à Rome. C'est quand même très particulier. Cette statue sur une place qui n'est pas éponyme, qui s'appelle Ugo l'Amalfa, au pied de l'Aventin, c'est un comble pour Mazzini dont on connaît les rapports, c'est la colline des moines, l'Aventin, je ne me trompe pas, donc de le mettre là. Il est devant le Circo Massimo, donc il est quand même au cœur de la Rome, et en même temps à l'écart. Je crois que, Mariella, vous en parliez hier aussi, ça a été le dernier à être intégré beaucoup plus difficilement que Garibaldi. C'est vrai qu'il y a une publication de ses œuvres nationales, qu'une partie de ses écrits sont lus à l'école, etc. Mais c'est une intégration beaucoup plus difficile. Alors cette interprétation, je crois qu'il faut aujourd'hui la remettre en partie en cause pour plusieurs raisons. Première raison, une raison méthodologique. Est-ce qu'on doit simplement oublier l'histoire périmée pour ne s'intéresser qu'à l'histoire sanctionnée? Histoire périmée, histoire sanctionnée, c'est deux belles formules de Gaston Bachelard. Est-ce que finalement on doit laisser? L'historien des idées, l'historien du politique, doit aussi s'intéresser à l'histoire périmée. Elle est au moins aussi intéressante que l'histoire sanctionnée. Nul n'ignore que toutes les théories qui ont été élaborées pour donner naissance à la nation italienne, de celle des néo-guelfes, de celle des fédéralistes comme Cattaneo, ou bien sûr de celle de Mazzini, certes n'ont pas été actualisées, mais ont joué un rôle important, ont abouti d'une certaine manière à l'unité italienne. Donc dans l'histoire des idées, comme dans l'histoire des faits, l'échec n'est pas un concept fécond. Plus intéressant est de voir que si un projet n'est pas pris, il est souvent, une partie est souvent conservée et dépassée. Alors, dans le cas de Mazzini, ça s'impose d'autant plus, je disais qu'il y a eu une révision historiographique. Et là, il faut mettre en avant, je crois, un nom, quelqu'un qu'on estime tous ici, qui est aujourd'hui un homme qui a 90 ans, qui a fait cette révision historiographique alors qu'il était sorti du monde académique, qui est Salvo Mastella. Donc là, il faut vraiment rendre hommage à cette figure, toujours actif, il continue de publier des livres. Et il a fait des disciples. Bon, je peux me considérer d'une certaine manière sur la question madinienne comme un de ses disciples. Qu'est-ce qu'il a dit? En gros, cessons de nous intéresser simplement, nous intéressons plus, mais cessons de nous intéresser aux Mazzini, patriotes courageux, préoccupés de faire une Italie unie des Alpes à la Sicile. Pour s'intéresser à un Mazzini, non plus patriote mais penseur, non plus dans un cadre italien mais dans un cadre européen. Mazzini, penseur de la démocratie en Alpes. Non seulement penseur, mais homme d'action pour construire une sainte alliance des peuples, Santa Alianza dei Popoli, c'est la formule même de Mazzini, c'est-à-dire un programme pour la démocratie et un vrai projet d'action pour la démocratie en Europe. Programme qui se construit durant le premier séjour anglais de Mazzini. Mazzini arrive en Angleterre en janvier 1837 et il reste jusqu'à la révolution de 48. Et dans ce pays, il se forge une stature de penseur de la démocratie. La démocratie jouait peu de rôle avant. Il parlait de la République. Il n'aimait pas la démocratie. Enfin, il n'aimait pas, n'exagérons pas, mais c'était faisait pas partie de sa culture politique. Là, elle entre pleinement dans sa culture politique. Or, la fin de la décennie 30, la décennie 1840, c'est une décennie formidable. À Londres, il y a une formidable ébullition intellectuelle. Pour plusieurs raisons. Un, il y a tout un débat autour de l'ouvrage de Tocqueville, de la démocratie en Amérique. Qui est-ce qui traduit de la démocratie en Amérique? Stuart Mill. Qui est-ce qui discute de la démocratie en Amérique? Guizot, Mazzini, Marx, Engels, pour prendre les principales figures. On a là un débat intellectuel sur la notion de démocratie absolument considérable. Mais les Anglais ne sont pas absents de ce débat. Parce que qu'est-ce qui se passe en Angleterre à cette époque? À cette époque, il se passe un formidable mouvement, le chartisme. Le chartisme. Or, il y a, je le montrerai dans la relation écrite, il y a, ça s'entrecroise les discours entre les émigrés et les discours entre les chartistes. L'aile modérée, l'aile plus révolutionnaire du chartiste. Et on parle en quelle langue? Un peu en français, parce qu'il y a l'émigration polonaise, l'émigration italienne et l'émigration française qui arrivent surtout plus tard, après 48. Alors évidemment, c'est une langue commune. L'italien, non. L'allemand, trop compliqué. On parle en anglais. Dans les journaux du chartisme. Et c'est toute une série de manifestes, d'adresses, de pétitions qui circulent via la presse chartiste, entre autres. Le tirage, le principal journal, le Northern Star, l'étoile du Nord, qui est le grand journal chartiste, qui est un journal largement diffusé. Donc là, on a un débat absolument considérable, qui va se radicaliser, je vais vite pour respecter le temps, avec la révolte de Cracovie en 1846. Vous savez qu'il y a un manifeste qui est publié, le manifeste du gouvernement provisoire de Cracovie, traduit en allemand. Il y a une faute dans la traduction sur la nationalisation des terres, une faute qui aura son importance. Mais surtout, on en débat à partir du moment où le Northern Star, l'étoile du Nord, publie ce manifeste traduit en anglais. Et chacun de ces familles de réfugiés se positionne, c'est pas très français, mais se pose par rapport à ce texte. Les uns, comme Marx et Engels, il voit le premier manifeste, vraiment un manifeste qui met en avant, d'une certaine manière, l'émancipation sociale avant l'émancipation nationale. Mazzini, au contraire, il vit d'abord l'émancipation nationale avant l'émancipation sociale. Je fais à la serpe. C'est dans ce débat des intellectuels, des émigrés, que le marxisme se construit. C'est pour la première fois qu'apparaissent des notions comme working class democracy, middle class liberalism. C'est la première fois que la classe ouvrière est décrite comme ruling class. C'est-à-dire tout ce qui va faire partie du vocabulaire et de l'idéologie marxiste se construit à cette époque. Elle se construit pourquoi? Pour fédérer les différentes familles d'émigrés en lien avec les chartistes. Chacun cherchant à fédérer les immigrés et avoir le soutien des chartistes. Et il y a deux familles qui s'imposent, enfin trois, on va dire. La française vient un peu plus tard, elle vient à partir de 1848 lorsque Louis Blanc part en exil, enfin, surtout après le coup d'État, 1851. Donc il y a une famille française qui prône un socialiste sui generis. il y a Marx et surtout Engels qui est hyper actif, qui prône une démocratie, on va dire, communiste, et Mazzi, qui prône, lui, ce que Mastelon et d'autres appellent une démocratie éthique, que je vais présenter. Ça va loin, car Mazzini publie entre août 1946 et juin 1947 six articles qui sont publiés et qui sont ensuite rassemblés en opuscules sous le titre « Sex upon Democracy in Europe », « Pensée sur la démocratie en Europe ». Alors, il en existe une version italienne, différente, écrite en 1852 en opposition avec les socialistes français, donc dans un contexte différent. Déjà, il y a eu 48, c'est avant 48, après 48. Ce manifeste, il veut en faire le manifeste de l'association, la People's League International, même en anglais, mon anglais est mauvais, mais enfin vous comprenez ça, qui veut être la fédération, le regroupement des émigrés, de l'immigration politique, derrière ce programme. Quelle est la réponse? La réponse, je crois qu'on peut le dire, et aujourd'hui des gens comme des figures marxistes comme Vaca en Italie, etc., l'admettent, le manifeste du Parti communiste, célèbre manifeste du Parti communiste, est en partie, ne tombons pas dans une vision mazziniano-centrée, est aussi une réponse à ce texte de Mazzini, complètement oublié, jusqu'à une date, enfin, ou bien fortement négligé, hors le cercle étroit des spécialistes. Donc un texte aussi important que le manifeste, j'insiste, un texte aussi important que le manifeste du Parti communiste est une réponse à la pensée mazzinienne. Et si on regarde Marx, en particulier la correspondance, il prend Mazzini très très au sérieux. Un peu plus tard, je n'entre pas là parce que c'est hors de mon propos, je rappelle que l'International aurait pu devenir mazzinienne. Le premier projet, c'était écrit par des mazziniens. Quand Marx voit ça, parce que Marx était malade, quand Marx voit ça, il dit « Qu'est-ce que c'est que ce breuvage insipide et tout ?» Il a tout repris. Mazzini a un peu loupé le coche, mais il s'en est fallu, si je puis dire, d'un cheveu, que l'International parte sur des rails mazziniens. La première Internationale, j'entends. Donc, voyez l'importance. Arrêtons de dire « Mazzini, penseur utopiste ». Marx, il ne prend pas comme un penseur utopiste. Il dit « Oui, c'est peut-être le pape, il est, évidemment, mais il dit à la différence de Pie IX, Pie IX, lui, il n'a plus d'influence. Par contre, le papa Mazzini, lui, il en a. » Alors, qu'est-ce qu'il dit, Mazzini, sur la démocratie? Alors, ce texte a été traduit en italien, parce qu'il est publié en anglais, présenté par Salvo Mastelone, et réédité dans une collection de poches par l'éditeur Feltrinelli Classici. Donc, il y a déjà deux éditions. C'est le best-seller de l'année 97, mais enfin, ça prouve qu'il y a eu véritablement un engouement pour ce texte. Ce texte, traduit en français par le philosophe Serge Audier, traduit en espagnol, en ce moment, il est traduit en turc, par notre ami commun, Gengis Chagla, qui est en train de traduire. Ça devient le texte de... un texte qui était oublié, pour ne pas dire ignoré, qui devient le texte principal. Ça ne veut pas dire qu'il faille négliger les autres. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans ce texte? Je vais être rapide, à la limite, je renvoie au texte écrit. Bon, il défend une vision de l'histoire dans laquelle... la vision de l'histoire est un jeu entre la conscience individuelle du génie et la tradition. La tradition qui prend comme le patrimoine de l'humanité. D'où le patrimoine de l'humanité qui est formé de trois choses principales. La famille, la propriété, la patrie. Alors il dit, la famille, la propriété, la patrie sont maltraitées. La famille, c'est le règne aujourd'hui de l'égoïsme. La propriété, c'est aussi le règne de l'égoïsme. La patrie, c'est le règne du nationalisme et pas le règne de la fraternité. Mais on ne peut pas les gommer. Tout le contraire d'une utopie. Cessons d'être, et c'est ce qu'il reproche à des gens comme Louis Blanc, etc. Arrêtez de vous enfermer dans vos cabinets, dans vos studios, pour faire des plans formidables sur l'humanité. Partez de ce qui existe. Partez de la tradition pour la réformer. Donc un projet clairement réformiste, se basant sur une transformation de cette tradition. Alors, cette conception de la démocratie, on l'appelle souvent, je prends la formule Mastelone, c'est une formule, il l'appelle la démocratie éthique, qui n'est pas celle du modèle anglais. Par exemple, la question du parlementarisme, du jeu parlementaire, il n'en parle pas. Mazzini est assez fermé à ça. Il est juriste de formation, Bon, moi, j'ai essayé de le montrer lors de l'étude, tu t'en souviens, François, de la République romaine. Ça ne l'intéresse pas, ces problèmes constitutionnels. C'est pas le modèle anglais. C'est pas le modèle français. Jacob. C'est pas le modèle américain, parce qu'il insiste beaucoup. Alors, évidemment, c'est un modèle, vous savez, qui prend de l'importance avec Tocqueville, parce qu'il dit, en gros, de là-bas, il y a l'esclavage. Il essaye de faire un modèle nouveau, qui, pour partie, appartient au premier 19e. Vous savez, c'est toute cette notion d'humanitarisme qui a été mise en avant par Paul Bénichoux. Justement, Paul Bénichoux, on parlait de l'interdisciplinarité, il est en plein entre la lecture des textes et la mise en avant d'une époque. Mais il y a aussi des choses très modernes. Il y a aussi des choses extrêmement modernes. En particulier, il y a presque en inouché une théorie de la communication entre les hommes. Alors, vous voyez, ce texte est important. Alors, c'est pas pour autant qu'on doit oublier le Mazzini patriote. Mais le Mazzini patriote, il faut aussi le prendre comme un penseur qui a une dimension européenne et qui pense à la démocratie. Alors, les choses sont un peu mieux connues, donc je vais plus vite. Mais qu'est-ce que c'est ? En gros, Mazzini a un projet qui n'est pas simplement, cessons de dire, de faire l'Italie unifiée des Alpes à la Sicile. Je ne dis pas qu'il ne veut pas tordre le bâton dans l'autre sens au point de le casser. Il veut faire ça. Mais il a d'abord un double projet. Et c'est pour ça qu'il veut Rome capitale, à la différence des modérés dont on parlait hier, d'Azeglio et compagnie. C'est parce qu'il veut une démocratie pour l'Italie, parce qu'il dit en gros l'autorité incarnée dans un seul homme, que ce soit un roi ou un pape, ça appartient au passé. Donc il faut que la démocratie, le peuple, et une église conciliaire. Sans doute que l'église catholique demain sera mazinienne. Ça se dessine de plus en plus. C'est ce que disait Roland Sarti, un grand spécialiste de Mazzini, qui dit de manière toujours amusée que finalement, l'avenir de l'Église est peut-être dessiné, peut-être écrit par Mazzini. Ce projet aussi s'inscrit dans l'Europe. Il n'est pas fermé aux frontières. Il y a tout un Mazzini de géopolitique, d'ailleurs, qui n'est pas inintéressant. Par exemple, des gens comme Colaiani, sur qui j'avais fait ma thèse, s'était intéressé au Mazzini géopoliticien, c'est-à-dire quels sont les rapports avec les Slaves, avec les différents. Pensez que Mazzini a toujours, à chaque fois qu'il fait une association en Italie, il y a son correspondant européen, jeune Italie, jeune Europe, jusqu'au dernier, Alliance républicaine italienne, Alliance républicaine universelle. Toujours une pensée sur l'Italie, sur l'Europe. Et qu'est-ce qu'il propose ? Pourquoi fait-il de l'Italie la nation phare ? Parce qu'il dit la France, elle a été importante. Mais la Révolution française, il ne s'agit pas de la, comme Carlyle, son ami Carlyle, de la réduire à une Bastille, une Bastille et une guillotine. C'était les titres des volumes de Carlyle. Non. Mais elle clôt une époque. Elle n'ouvre pas une époque. Elle clôt une époque. En gros, une époque ouverte, ce qu'il appelle une synthèse religieuse dans son vocabulaire, ouverte par le christianisme, qui est l'égalité entre les hommes, et elle le grave dans le marbre de la loi. Maintenant, il faut passer à une autre étape. Celles n'ont plus des droits mais des devoirs, celles n'ont plus de l'individu mais de l'humanité. Ces choses sont mieux connues. Et l'Italie en ce sens-là, et la troisième Italie, c'est pas juste un jeu rhétorique. C'est vraiment elle qui doit montrer, pour une troisième fois, la route de l'avenir dans le sens d'une démocratie et d'une église concile. Ce projet d'une Europe pour les peuples et par les peuples, évidemment, est très moderne. Mais elle s'oppose à un autre projet moderne, celle de Napoléon III, celle de Palmerston, celle de Cavour, qui est une Europe moderne. Ils ne veulent pas l'Europe du Congrès de Vienne, hein, bien clair, mais une Europe pour les États, par les États. Et finalement, c'est celle qui l'emporte. Et quand on voit aujourd'hui les jeux européens, on voit qu'on est totalement dans des débats actuels. Donc, pour conclure, j'espère qu'au terme de cette relation, enfin, sur relation volontairement... je n'ai pas voulu structurer en A, petit B, petit C, ça je renvoie au texte écrit, mais plutôt, j'espère, stimulante pour la discussion, on assiste à une révolution copernicienne dans les études sur Mazzini. Ce n'est plus, on ne peut plus l'appréhender sérieusement comme un simple conspirateur, comme un penseur utopiste, ni même comme la figure glorieuse du patriote italien préoccupé de la seule unité de l'Italie. Mazzini, c'est un penseur de dimension européenne, qui pense européen, si je puis dire, qui pense, alors je ne veux pas en faire un père de l'Europe, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais qui pense en termes de projet européen dans lequel s'insère l'Italie. Ses interlocuteurs, c'est Mill, c'est Guizot, c'est Tocqueville, c'est Herzen, c'est Marx, c'est Louis Blanc, c'est le Drurolin. Là, je peux dire etc., mais j'ajoute quand même encore Engels. Et là, Mastelone a une trouvaille qu'il est très fier, c'est qu'il s'est rendu compte que Engels, il y avait une femme dont on ne trouvait pas, qui répondait régulièrement à Mazzini. Ben, cette femme, c'est un nom de plume de Engels, c'est quasi sûr, par des recoupements d'études des textes, vous voyez, l'intérêt du contexte et de l'étude des textes, hein, on y est en plein dans l'interdisciplinarité, il y a de très fortes chances que ce soit Engels. Donc Engels ne cesse de répondre, plus que Marx, qui est un peu occupé aussi par d'autres choses, en particulier il commence à s'intéresser à l'économie, qui répond sans cesse à Mazzini. Donc, décalons l'image de Mazzini simplement italien, allons à Londres, allons vers l'anglais, qui est la langue internationale dans laquelle parlent ces émigrés, ces exilés politiques, réfléchissons à son projet et étudions son projet de démocratie éthique et sa volonté d'une Europe fondée par et pour les peuples. Et parce que là, on est dans des choses qui je crois, peuvent... Il ne s'agit pas d'exagérer l'actualité de Mazzini. Il y a tout un pan de Mazzini qui appartient au passé. Hein, ne tombons pas dans une vision simpliste. Mais il y a effectivement des choses, encore, je crois, aujourd'hui, très stimulantes pour comprendre notre époque. Je vous remercie de votre attention.